monsieur Pignet, mais aussi à sa présentation, parce que d'avoir insisté sur la différence déjà entre baroque et maniérisme, c'est un petit peu mon commencement. Alors moi j'ai commencé par me dire Shakespeare et baroque. Ça a été toute ma première période. Il y a eu tout un moment dans les études universitaires où on ne parlait pas de maniérisme. Et puis toutes les études qui ont été faites sur un certain nombre de peintres ont amené cette notion de maniérisme, c'est-à-dire ce moment où finalement on passe de la Renaissance au XVIIe siècle avec un incident majeur, tout est semblable et tout est différent. C'est-à-dire, on a à peu près les mêmes corps, les mêmes histoires souvent, la même esthétique, et puis on a une sorte de tremblement, de modification, parfois à peine perceptible, qui fait que cette Renaissance magique, centrale, qui centralise tout, on prend une Vierge de Raphaël, elle est naturellement dans un cercle parfait, et elle occupe le centre parfait du cercle. Et puis tout d'un coup, 15 ans plus tard, on a une Vierge de Pontormeau. Alors tout d'un coup, la Vierge de Pontormeau a d'abord un coup immense. Elle a aussi un corps très, très chantourné, on pourrait dire. Le bébé assis, qui naturellement dans le tableau par exemple dans un Raphaël, enfin, etc., aurait été le Jésus aurait été central sur le ventre de sa mère. Et là, dans Pontormeau, l'enfant, on ne sait pas à quel moment il va tomber, mais très certainement il va tomber de la jupe, il est tout prêt à tomber. Et il y a un petit groupe d'enfants, joueurs, dans le coin. C'est-à-dire on a décentré l'attention, on a décentré toutes les verticalités, toutes les horizontalités, on a inventé la trajectoire, on décentre. On décentre, et je pense que le maniérisme aussi dans l'écriture prend cet aspect décentré. On écrit les mêmes histoires. Shakespeare emprunte, comme le disait Montaigne à propos de lui-même, il est emprunteur à toute main, et il est comme tous ses contemporains, il emprunte et il refait ensuite un miel qui est tout sien, un miel qui est tout leur. On a ce sens d'une continuité discontinue, en quelque sorte. Quelque chose arrive dans les grandes thématiques, les grands thèmes, les grandes représentations. C'est le même et c'est différent. Et je pense que ça, c'est la quintessence du maniérisme. C'est-à-dire cette écriture qui fait trembler les modèles, qui change le modèle. Alors, tous les modèles de la Renaissance, dans l'ensemble, viennent quand même beaucoup de ce deuxième siècle après Jésus-Christ, cette esthétique dont naturellement le nom m'échappe à la seconde, ça va de soi, il va me revenir. Mais on a toute une esthétique à peu près du deuxième, troisième siècle, ces femmes très longues, ces tuniques très longues, ces hommes et ces femmes, tous si minces que finalement ils commencent à se ressembler, et dans l'épisode maniériste, ils se ressemblent complètement. D'où les jeunes gens chez Shakespeare. Ils sont parfaitement homogènes, garçons, filles. En plus, dans le théâtre shakespearien, les femmes sont jouées par des hommes. Donc elles ont toujours ce physique longiligne, ce physique adolescent, ce sont de jeunes adolescents. Et donc Shakespeare va jouer, pour commencer évidemment dans La Nuit des Rois. Dans La Nuit des Rois, on a un couple de jumeaux, un garçon et une fille. C'est le couple idéal, ce partage idéal en deux moitiés du monde, deux moitiés merveilleuses, quasi identiques et pourtant différentes. Alors, on a là effectivement une masculinité pas très très affirmée, une féminité encore moins affirmée, et ça permet toutes les modifications, toutes les transformations. C'est là-dessus que repose toute l'intrigue de la Nuit des Rois. Dans la Nuit des Rois, on a un couple de jumeaux. La jeune femme, Vaiola, dès la deuxième scène, se déguise en garçon parce qu'à la suite d'une tempête, elle se sent vulnérable dans ce nouveau pays, l'Illyrie, dont elle ne sait rien, elle ne sait pas exactement où ça se trouve dans le monde, nous non plus d'ailleurs je crois, enfin moi en tout cas je suis tout à fait sûre, quelque part dans des pays comme le long de l'Italie, l'autre Méditerranée déjà qui commence, et Viola est toute prête à devenir un garçon. Quand elle entre sur scène, elle est elle-même un garçon déguisé en fille. Elle a donc tout loisir de devenir une jeune femme, un jeune homme. Et donc, elle va s'appeler Cesario. Donc, on a une première mutation absolument délicieuse et qui illustre cette esthétique maniériste. La jeune femme, instantanément, devient jeune homme. Et elle va... Alors, celui qui va la voir pour la première fois, qui est amoureux fou, avec le système pétrarchiste idéal, il a vu une fois de loin la belle Olivia, il est tombé amoureux à vie de la belle Olivia, il ne veut qu'elle, mais n'empêche que la première fois qu'il voit Cesario, instantanément, Cesario devient son compagnon au quotidien. Alors évidemment, Shakespeare, comme dans ses sonnets, s'amuse à l'amour homosexuel, c'est léger, il n'y a pas de... C'est jamais pesant, même dans les sonnets. Shakespeare ne donne pas d'explication, naturellement on ne sait jamais rien, on est appelé à deviner, à se douter, enfin, il faut une sensibilité polymorphe. Avec Shakespeare, sinon on n'y comprend rien. Les hommes du 19e siècle, bien campés dans leurs vestons, bien masculins, etc. Enfin, vous devriez me souffler quand il me manque un mot. Enfin, celui qu'on a si maltraité, qui a fini dans les prisons françaises, d'ailleurs. Ben oui, Oscar Wilde, voilà. Oscar Wilde a déboutonné les vestons. Enfin, il a. Mais bon, il l'a payé extrêmement cher. Du temps de Shakespeare, c'est presque naturel. Enfin, ça fait partie des mœurs. Et tous ont des poèmes, et tous ont des mœurs élastiques, et bon, voilà. Et donc, on a déjà, avec l'acteur, le comédien, ce sens qu'on passe comme ça les limites de la sexualité masculine ou féminine, sans heurts, sans problème, sans... presque sans costume. Il suffit en somme de d'ôter la jupe et de mettre le pantalon. C'est presque rien. On est dans le presque rien de la différence là, dans ces moments-là. Alors, c'est déjà délicieux, mais en plus, Shakespeare qui s'amuse avec ses personnages, qui s'amuse avec ses spectateurs, qui s'amuse avec toute cette connivence esthétique qu'il a avec son public. Il a un public cultivé qui va le voir. Ce ne sont pas des paysans du Danube qui arrivent dans les salles de théâtre où Shakespeare... alors, ce ne sont pas non plus toujours des aristocrates, bien qu'il y ait aussi des aristocrates, c'est quand même un public raffiné, un public lui-même proche du maniérisme, très formé à ce qui va être l'esthétique maniériste. Et donc, quand il prête à ses personnages l'œil que lui-même porte sur ses acteurs. Et quand, par exemple, le duc Orsino, dans La Nuit des Rois, qui se croyait amoureux pour à vie de la belle Olivia, pour l'avoir vue une fois, et ne jamais la revoir avant le début de l'acte 5. On va voir ce que Shakespeare fait de l'acte 5. C'est quelque chose d'absolument ahurissant qu'il puisse s'autoriser comme ça une telle liberté avec ses acteurs, avec ses thèmes, avec toutes les thématiques romantiques qu'on a pu projeter comme ça sur Shakespeare, même dans Roméo et Juliette. On fait de Roméo et Juliette une tragédie romanesque, etc. Mais il y a beaucoup de crudité, y compris de Juliette, la première. C'est Juliette qui met Roméo dans son lit. Et elle n'a quand même que... Elle n'a pas 14 ans. Donc elle est assez désirante. Elle désire. Et Shakespeare s'est bien montré. Enfin, il ne souligne rien. Ça va tellement vite, Shakespeare. On n'a pas le temps de peser, on n'a pas le temps de souligner, mais on a le temps de comprendre. Et il compte sur nous pour comprendre. Il compte sur son public. Son public est son premier élément de théâtre. Il le dit dans le fameux prologue d'Henri V, il dit à son public, sans vous, je ne suis rien. Si vous n'êtes pas là pour tout imaginer, je ne peux rien écrire. Ce n'est pas la peine que je mette en scène, parce que c'est vous qui voyez, c'est vous qui créez, c'est vous qui imaginez. On n'a pas d'auteur aussi généreux. Par exemple, son homologue, son grand rival, et en même temps, il s'aime bien, enfin, point trop, comme Ben Jonson. Ben Jonson est très fier de son œuvre et très... il fait la leçon à son public. C'est déjà un peu Molière. C'est-à-dire, vous ne savez pas, mais je vais vous apprendre à vivre. Jamais Shakespeare. Shakespeare dit, nous ne savons rien, nous ne savons pas faire, nous allons apprendre le peu qu'on peut apprendre ensemble. Et à tout moment, effectivement, c'est le cher public qui construit comme ça l'histoire. Par exemple, on va donc rester un peu dans la nuit des rois. Vous connaissez bien cette pièce ou moins que d'autres?
Un petit résumé.
C'est plus... Oui, je vais vous la résumer. Voilà. Je vais vous la résumer. Parce que c'est vrai que pour être la plus extraordinaire, la plus géniale et la plus complète des pièces, des comédies de Shakespeare, c'est une comédie de la fin. Shakespeare l'écrit 2 ans après Hamlet. C'est sa dernière comédie plaisante. Après ça, il écrira des comédies funèbres, épouvantables, après lesquelles on a envie de se pendre. C'est effroyable. Mais c'est la dernière comédie joyeuse, elle est pleine de rythme. Et donc, La Nuit des Rois, c'est essentiellement, ça commence par une tempête. Ça commence par de la musique quand même. Non, ça ne commence pas par une tempête. La tempête vient après. La première scène, c'est évidemment un amant qui se pose la question. La pièce commence quand même par le petit mot minuscule « if » en anglais. Et si c'était comme ça, ça veut dire que ça peut être différent. Et donc, si la musique est la nourriture de l'amour, dit le duc Orsino, alors jouez, parce qu'il se croit amoureux, il pense qu'il est la figure même de l'amant amoureux, et donc de la musique avant toute chose. Et donc ça commence par cette musique. Alors la musique va un peu grincer par la suite, mais il se croit quand même toujours amoureux avec ce « if » comme ça, très qui vous laisse tout attendre. On est là, quand on entre dans un théâtre shakespearien, on s'attend à tout. Enfin, quand on a bien la pratique de Shakespeare, on s'attend à tout. Et on a toujours comme ça un petit mot qui commence. Par exemple, Richard III. Richard III, qui va être une tragédie, mais épouvantable, qui a défiguré le vrai Richard, qui était probablement un roi très sympathique, ou moyennement sympathique, mais enfin un roi normal. Et on en a fait un monstre, parce qu'il fallait quand même que la dynastie des Tudors explique qu'il sauvait l'Angleterre. Donc on a fait du roi Richard III un monstre. Et les Tudors ont sauvé l'Angleterre. Mais quand la pièce commence, ça commence par ce mot anglais, tout court, les mots anglais sont courts. Ça commence par « now », « maintenant ». C'est-à-dire, on est là dans l'immédiateté du théâtre. On n'est pas en train de se dire, on va nous développer, comme dans le théâtre classique français, on va avoir une scène d'exposition. Il n'y a pas de scène d'exposition. Non, j'ai pire. On est... dans l'histoire, le moment, ce qui va se développer, quitte à se tromper, à faire une erreur d'identification, mais on est quand même tout de suite dans ce now et en même temps dans le if. On a toujours un peu ces deux mots qui balancent. Et si c'était différent, mais c'est quand même maintenant. Et le monde du théâtre, c'est effectivement ça. On vient d'entrer dans le théâtre, on ne sait encore rien et on dans le now de l'œuvre. L'œuvre, c'est maintenant. Et au théâtre, le temps, c'est la dimension principale du théâtre. On peut faire une salle toute noire, on n'y voit rien, mais on sait qu'on subira le temps. Si court qu'il soit, et on subira une heure, deux heures, en général, oui, les deux heures de sablier, les fameuses deux heures de sablier, le temps de retourner les grands sabliers de l'époque, et le temps est la dimension du théâtre. Tant que le temps ne s'est pas terminé, on n'est pas à la fin de la pièce, quelle que soit la pièce. Donc, avec la Nuit des Rois, on est à la fois dans maintenant, ce maintenant de ce jeune aristocrate, Torsino, qui en même temps suppose, if, et si, la musique était la nourriture de l'amour, c'est-à-dire qu'il est en pleine transe, à la fois amoureuse, esthétique, naturellement, tous ces jeunes amants sont des esthètes. Ça se voit sur eux. Quand on voit les représentations dans les miniatures anglaises des jeunes amants, ils sont couverts de fleurs, ils sont couverts de bijoux. Ce sont des jeunes femmes en hommes ou des jeunes hommes en femmes, on ne sait jamais complètement, mais ils ont quelque chose évidemment d'éminemment féminin, une sorte de double valeur, c'est assez troublant. Mais le maniérisme, c'est ça. La matière ne compte pas, je peux prendre n'importe quel sujet. La matière n'a pas d'importance, mais la manière de la traiter va faire toute la différence. Et donc, le maniérisme demande une attention, une pièce maniériste demande une attention extrême, parce que tout va arriver sous nos yeux, tout va muter sous nos yeux. À commencer, dans la Nuit des Rois, par cette histoire d'amour qui commence comme effectivement un beau conte d'amour et de mort, était toute la tradition européenne de l'amour, où il faut mourir d'amour, etc. Et Pétrarque, naturellement, meurt d'amour, écrit dans la nuit, n'a plus de lumière, et s'enivre de musique, etc. On a vraiment... Orsino, c'est une sorte de Pétrarque... Pétrarque renouvelé, jeune Pétrarque. Et Orsino pense qu'il aime la belle Olivia, on ne la verra d'ailleurs qu'à l'acte 2, je crois qu'elle ne va apparaître qu'à l'acte 2. Et tout de suite, deuxième scène, aucun rapport avec ce moment idyllique de musique, de raffinement d'un château ducal où tout est exquis. Tout d'un coup, une tempête absolument formidable, comme il y en aura jusqu'à la dernière pièce de Shakespeare, qui s'appelle La Tempête, qui est la dernière, toute dernière, en 1613. Il n'écrira plus probablement après 1613, et il meurt en 1616, donc il n'a plus beaucoup de temps non plus, mais en tout cas, la dernière est 1613, et donc une tempête absolument fracassante, et une jeune femme sortant des eaux, telle Aphrodite, Shakespeare ne nous le dit pas, mais c'est implicite. Et elle est épouvantée parce qu'elle a perdu son frère dans la tempête, son jumeau, qu'elle pense mort dans la tempête, et elle se déguise en garçon pour survivre, pouvoir traverser, Dieu sait quel pays rude et agressif. Et en fait, elle va arriver tout de suite, directement, à la cour d'Orsino. Comme par hasard, la jeune femme savait déjà que Orsino était célibataire et qu'il était un richissime duc. Elle savait ça par son papa ou par les nouvelles qui circulent. Et donc, elle ne veut qu'une chose, c'est aller à la cour d'Orsino, et elle arrivera, habillée en garçon, à la cour d'Orsino. Et 5 jours après son arrivée, un des jeunes serviteurs dit qu'il n'y a plus moyen de voir ce jeune Césario autrement qu'avec le duc, et le duc autrement qu'avec Césario. On a donc là une petite amourette homosexuelle qui commence, en tout cas le duc donne dans le panneau. Lui qui n'aimait qu'Olivia, qui était la perfection de la féminité, se trouve absolument soudain n'aimant que ses armiaux. Il ne se l'avoue pas, à aucun moment Shakespeare est trop habile, hein. Il sait trop bien faire, il ne suggère même pas qu'il puisse y avoir la moindre ambiguïté, mais enfin, il nous dit quand même qu'il ne décolle plus l'un de l'autre, toutes leurs conversations sont communes, et bon. Et puis, là-dessus, comme c'est une comédie, elle est polymorphe. On n'a pas, naturellement, dans Shakespeare, ce serait trop facile à suivre, on n'a pas une seule histoire. Alors on a cette histoire des amants. Et il faudra attendre je ne sais quel moment dans l'acte 2, et il faudra attendre l'acte 5, pour que, en tout cas, Orsino revoie la belle Olivia. Quand il entend dire qu'elle arrive, il se dit que le ciel marche sur la terre. Il s'attend à un éblouissement, deuxième éblouissement, après le premier qu'il avait vécu quand il l'avait vu pour la première fois. Patatras, ça ne se passera pas du tout comme ça. Il y aura tout autre chose. Il n'avait pas tout prévu. On a donc ce début romantique, romanesque. On a cette petite homosexualité entre les deux hommes. C'est facile pour Shakespeare, il n'a que des hommes en scène. Donc, toujours, ça lui est très facile de suggérer qu'une jeune femme qui est en fait un ravissant petit garçon puisse avoir des sentiments pour le monsieur qui la protège. Enfin, c'est implicite. C'est construit dans le sens et dans le texte. Et cette jeune Viola, qui est déguisée en Césario, va connaître quand même, alors elle est folle amoureuse, elle a le droit, c'est une femme, enfin elle a le droit, tout le monde a le droit d'aimer, mais je veux dire, en tout cas elle a le droit moral de l'époque pour elle, elle a le droit d'aimer, puisque elle sait qu'elle est femme. Alors pour l'instant elle ronge son frein, mais bon, il n'est pas complètement aveugle. Le duc Orsino, et un jour, dans les premières scènes, il lui dit à quel point ce jeune garçon qu'elle est a la délicatesse d'un visage de femme, des yeux magnifiques, des lèvres pulpeuses et désirables. Bon, et je crois qu'il a, en somme, Shakespeare nous dit. Il pourrait avoir l'intuition que c'est une femme, mais c'est pas sûr. On a par exemple un magnifique dessin de Bronzino. Oui. Il y a un magnifique dessin de Bronzino où on voit un jeune garçon pulpeux à souhait, des joues absolument comme poudrées, un panier de fruits qui symbolise évidemment le désir, l'attrait, et c'est un garçon. Donc c'est vraiment la civilisation ambiguë, ce moment où hommes, femmes, tant qu'ils n'ont pas 15 ans, tant que Shakespeare s'en sert de ça, souvent, tant qu'ils n'ont pas de la barbe. Parce qu'un jeune garçon, quand la barbe lui pousse, il ne peut plus jouer les rôles de femme. C'est effroyable. Et donc, dans plusieurs pièces, Shakespeare s'arrange pour que un des comédiens se plaigne que sa barbe lui pousse et qu'il ne peut plus jouer des rôles de femme. À commencer par le Songe d'une nuit d'été, pour la fameuse tragédie qu'on va mettre en scène à la fin. Un acteur à qui on demande de faire un rôle de femme dit « Mais non, pas encore des rôles de femme, la barbe me pousse !» Voilà. Et donc Shakespeare joue toujours avec le matériel qu'il a sous la main, les jeunes acteurs, les rôles, le théâtre, c'est tout à fait, c'est ça qui est extraordinaire dans Shakespeare, et c'est ça au fond qui aussi le désigne comme maniériste. Le maniériste, il joue avec son propre instrument. Alors s'il est peintre, il joue avec sa peinture. D'autant que Alberti a inventé la perspective, et donc le jeune peintre peut créer des espaces fictifs dans la peinture, ça aussi c'est maniériste. Tout d'un coup, on éloigne, on rapproche, comme ça, avec une peinture toute plate. C'est-à-dire qu'on aime l'illusion, le culte de l'illusion. On est captif et en même temps, on la désire. Donc il y a une sorte toujours de complicité entre celui qui peint, celui qui écrit, celui qui montre au théâtre. Ils sont tous de la même génération. Ils ont tous cette sorte d'ambiguïté en eux qui les porte dans leur création. Par exemple, Vinci va faire son fameux ange tellement angélique qu'on se dit « bon, c'est une femme ». Mais enfin, il lui ajoute un sexe qui ne permet pas l'ambiguïté. Michel-Ange aussi va faire, alors lui, des vierges quasi masculines. On se prend à douter qu'elles puissent vraiment être des vierges. Donc il y a ce jeu partout dans la peinture, le théâtre. Et pour revenir donc à notre Nuit des Rois, on a donc ce premier couple qui vient se souder. Et puis on a des comiques formidables, parce que Shakespeare se dit, je ne vais pas embarquer mon... Il n'est pas classique, il n'est pas l'homme d'un seul récit, d'une seule narration, d'une seule histoire, d'une seule intrigue. Il lui en faut beaucoup. C'est simple, dans le son d'une nuit d'été, j'ai compté 6 départs d'intrigue. Il y a au moins 6 intrigues différentes, aucune ne se termine d'ailleurs. On les fait dormir. Voilà, on n'a pas de... Shakespeare n'a probablement pas de solution pour ces 6 intrigues, donc tout le monde dort. C'est parfait. Il y a la nuit profonde, et tout le monde va se réveiller amoureux, tout sera réparé, tout sera... Enfin, c'est idyllique, la fin. Mais ça n'est quand même qu'un songe. Et tout le monde doute bien qu'il a dormi, et que quelque chose de pas normal s'est passé dans le sommeil. Mais enfin, bon, ça se termine bien quand même. Et de toute façon, à la fin du songe, un des petits personnages, un des lutins, vient pour dire en scène, de toute façon, vous n'avez rien vu, il n'y a pas eu de théâtre, vous vous êtes trompé, vous avez fait erreur, il n'y a eu qu'un songe. Nous avons tous dormi, et nous avons cru voir des histoires phénoménales, mais nous avons tous dormi. C'est-à-dire Shakespeare, c'est là qu'il les maniérise merveilleusement, tout ce qu'il utilise dans sa pièce, y compris des acteurs qui dorment en scène, il en fait un élément d'ironie, de jeu, de complicité avec son public. C'est tout à fait étonnant. Et donc, dans La Nuit des Rois, on a aussi cette même complicité. Alors là, on a deux pièces ensemble. Cette pièce tellement romantique, tellement délicate, qui commence avec l'amant maniériste qu'est Orsino. Et au beau milieu, on a de gros personnages, bien grossiers, qui rôtent en scène sous le nez de la duchesse, qui est comtesse, la comtesse. Et donc, une grossièreté formidable en même temps. Alors, dans un film, la grossièreté, bon, il faut que ça coexiste dans la pièce. Et donc, Shakespeare a un petit maître de jeu, c'est la servante d'Olivia. Elle a les pieds par terre, une présence d'esprit absolument fabuleuse, et elle mène le jeu. Pour que le public, là, qui est devant nous, ne s'ennuie pas trop, pendant que les amants font leurs amours tellement évaporés, tellement quasi impalpables, elle met en scène une farce formidable. Alors il y a un intendant, Malvolio, comme son nom l'indique, il n'est pas très bienveillant pour le reste des serviteurs ou des personnages autour, et donc la jeune Maria va mettre en scène une farce vraiment moliéresque avant Molière. Comment apprendre à ce grossier personnage plein de lui-même, infatué de lui-même, Malvolio, à se conduire correctement avec les autres serviteurs, les autres personnages de la maison d'Olivia. Et donc on a une scène formidable où on imite l'écriture de sa maîtresse, dont il se croit amoureux, Olivia, toujours la même bien sûr, et Et Shakespeare aussi joue comme ça, de deux amants, d'un côté l'amant noble, comte, duc, et de l'autre côté l'intendant, qui est aussi amoureux pour des raisons plus terre à terre. Il attend le moment où, quand il aura épousé sa chère Olivia, il pourra dédaigner le personnel au sol, si je puis dire, et il pourra astiquer sa chaîne et devenir, en somme, le plus noble. Il confond effectivement posséder et être aristocrate, mais ça, évidemment, il n'a pas fait ça, il n'a pas muté. Alors, on a donc cette histoire en sous-main, dans laquelle on a une sorte d'amour un peu grossier, un peu surfait, un peu, mais moliresque, très moliresque, très classique, on peut dire. Ça se produit comme ça au centre de la scène, alors qu'on a l'impression que les histoires amoureuses, le duc Orsino, etc., c'est un petit peu dans les périphéries, on les voit jamais. On les voit jamais amoureux, on les voit jamais s'aimer. Ça se passe, on nous dit, on nous raconte, on espère, on attend, on rêve, mais on n'a rien vu. Tandis que la farce, elle sera vraiment au centre de la scène. Autrement dit, Shakespeare sent bien qu'il a un petit trou dans sa fiction. Il y a quelque chose. Et donc il remplit son trou. Farcir, ça veut dire ça. Hein, la farce, ça remplit. Quand on ne sait pas le faire, on fait une farce. Bon. Et donc il fait sa farce. Et ça remplit. C'est extraordinaire. Alors il y a un cousin de d'Olivia qui se conduit comme un grossier personnage. Et par exemple, mais Shakespeare a quand même une façon de ramener tout ce qui est à la périphérie vers le centre et inversement le centre vers la périphérie. Et donc, on pourrait se dire, il y a l'histoire amoureuse d'une part, et puis il y a les grossiers personnages de la farce d'autre part. Mais très facile pour Shakespeare, il a des jumeaux. Et donc, les grossiers personnages jouent les fiers à bras, tirent le sabre à tout moment. Quand ils voient le petit Césario, ils ont quand même l'intuition que c'est le petit Césario. Nous savons que c'est une frêle femme, qu'elle ne sait pas tirer l'épée, qu'elle ne sait rien faire avec une épée. Mais eux ne le savent pas. Mais ils ont l'intuition, évidemment, que c'est un piètre combattant. Alors ils sont fiers à bras, etc. Ils poursuivent le jeune Césario jusqu'au moment, évidemment, à l'acte 4, à la fin de l'acte 4, où c'est pas du tout Césario qu'ils vont avoir en face d'eux, mais le jumeau de Césario. Et ils viennent devant le jumeau, ils disent « Comment, mais alors tu nous as attaqués, alors viens un petit peu, etc. » « Ben viens, Sébastien !» Et puis c'est une fine lame. Alors évidemment, les grossiers personnages sont fendus, etc. Le pauvre Sir Andrew dit « On m'a cassé la margoulette !» Et l'autre... Bon, c'est la catastrophe, évidemment. Mais Shakespeare sait se servir de sa farce. C'est-à-dire qu'il fait le joint entre la farce un peu moralisante et puis quand même, justement, farcir sa scène qui n'est pas trop vide. Qui n'est pas ces moments, parce que c'est bien une Olivia langoureuse et qui se claquemure chez elle, mais ça ne remplit pas la scène. Et donc, il a tout trouvé, il a trouvé ce moment. Alors on s'est dit, mais des grossiers personnages comme ça au milieu, ça vient, eh bien oui, ça vient farcir l'intrigue qui, sans ça, serait assez vide. Et c'est vrai qu'on n'aura vraiment l'intrigue qui reprend qu'à l'acte 5. Il faut attendre l'acte 5 dans un théâtre. C'est assez long, ça fait quand même une bonne heure et quart avant qu'on soit à l'aube de l'acte 5 et effectivement du moment final. Et l'acte 5, alors, c'est absolument... C'est du Shakespeare, plus shakespearien que nature. On a donc le duc Orsino qui entre en scène et qui va au-devant d'Olivia et qui se dit, lui, amant pétrarchiste, enfin, je vais connaître l'apothéose de mon amour. Et donc, il entre en scène et voit arriver la belle Olivia et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel marche sur la terre. C'est l'expression Shakespeare utilise, expression. Et dans ce début d'acte 5, Olivia aussi entre en scène. Mais quand elle entre en scène, elle a déjà vécu quelque chose dont Orsino n'a pas l'idée, c'est qu'elle a rencontré le double de Viola. Elle a rencontré le frère de Viola. Viola, naturellement, quand Olivia la courtisait, alors vous imaginez la douce rigolade du public shakespearien quand une femme courtise une femme. Et quand la femme qui s'appelle Viola est épouvantée qu'une autre femme la courtise. Mais c'est comme ça, c'est l'intrigue qu'il veut. Elle s'est déguisée, tant pis pour elle. Elle s'est déguisée en homme et en plus en garçon séduisant. Oh. Donc ben, elle a séduit Olivia. Donc Olivia courtise une femme. Donc Shakespeare est en train de se moquer là, des autorités religieuses de son temps. Il ne fait rien de mal. Il a déguisé ses personnages. Il n'a pas dit qu'il les a pas mis dans un lit. Il les a juste mis dans des costumes. Costumes, ça fait tout au théâtre. Et donc, on a cette scène extraordinaire où, au début de l'acte 5, Olivia voit entrer le duc Orsino. Elle ne le regarde pas, ça ne l'intéresse pas. Mais elle voit Viola en Césario. Et elle lui dit, mais mon cher époux, parce qu'elle vient d'épouser le jumeau de Viola. À la fin de l'acte 4, elle a le temps en vitesse, il y avait un prêtre à point nommé qui était là, donc le mariage s'est fait comme dans toutes les comédies shakespeariennes à la sauvette, et puis il est fait, il est bon, il est intangible, c'est comme ça, et donc elle est mariée à quelqu'un qui ressemble à Viola. Donc quand elle voit Césario, elle lui dit mon époux. Alors évidemment, il faut voir déjà la chose. Épouser un époux pour une sensibilité éthérée comme celle de l'amant maniériste qu'est Orsino. Lui, il aime Olivia, mais il n'a jamais pensé qu'il l'épouserait. Un amant pétrarchiste n'épouse pas. On n'épouse pas chez Pétrarque. On meurt d'amour. Jusqu'au bout. Le mariage est une impossibilité. Et donc, on a ce moment inénarrable du début de l'acte 5, avec enfin la possibilité que Orsino et Olivia s'épousent, se déclarent. Et c'est le moment où, effectivement, tout est fini pour Orsino. Alors, évidemment, Orsino veut tuer la jeune Viola qui l'a trompée, etc. Il ne le fait pas, mais il pourrait. Il se contente de se plier dans sa dignité, de dire « je m'en vais », mais il n'a pas le temps de partir. Il n'a pas le temps de partir, Dieu merci, parce que les comiques qui semblaient ne servir à rien et juste encombrer la scène, etc. Ben les comiques, les gros comiques, qui avaient voulu combattre violence, disons, c'est rien du tout, mais qui se sont trouvés en face de Sébastien, ben voilà que nos comiques entrent en scène, sanguinolents, dans un état absolument effroyable. Un désordre, tout le monde se précipite, un désordre, on oublie Olivia, on oublie le comte, on oublie presque même Viola, et dans ce désordre incroyable, évidemment, c'est ce moment où on a le vrai dénouement shakespearien. Tout d'un coup, sans qu'on ait le temps de s'en apercevoir, on entend le duc, stupéfait, qui, ayant vu entrer le personnage de Sébastien, s'extasie et dit, mais un visage, une seule voix, et pourtant deux personnes, c'est une anamorphose où je ne m'y connais pas. On a donc dans ce moment une pluralité de sens. Alors naturellement, on a un dénouement. Enfin, ouf, on a les deux personnages similaires en scène. Et donc Viola va pouvoir réintégrer ses jupons. Elle aura du mal d'ailleurs, parce que les jupons sont je ne sais pas où. Et donc elle aura le temps d'aimer en homme celui qui est son mari. Son mari a quand même un petit moment dans la fin du dénouement pour aimer celui qu'il a aimé avant de savoir qu'elle serait femme. Shakespeare est habile quand même. Il n'oublie jamais ses fils, il n'oublie jamais ses intuitions, il n'oublie jamais d'agacer son public, de le confronter aux réalités probables de son temps. Et donc, on a cette image absolument magnifique tout d'un coup, on a Viola et son frère, qui sont eux-mêmes stupéfaits, se retrouver face à face. Chacun croyait l'autre mort dans la tempête. Et ils se retrouvent ensemble. Un des amis de Sébastien dit, mais on dirait deux moitiés d'une pomme. Et effectivement, c'est... là aussi, on a cette vision des deux moitiés, les visions jumelles, les deux moitiés, et qui sont là aussi un des grands mythes maniéristes, effectivement, le masculin, le féminin, qui ne sont jamais, qui n'ont pas de césure, si on peut dire, dans le maniérisme, il n'y a pas de césure entre masculin et féminin. On a donc ce moment idyllique, et en même temps, Shakespeare utilise quand même une image de son temps. Il dit « It's a perspective that is and is not. Perspective. » Et le mot perspective, en fait, signifie non seulement perspective, inventé par Alberti au siècle précédent, mais en même temps, ça signifie anamorphose. Et ça signifie tous ces nouveaux jeux que l'on a mis, on a inventé les mathématiques du jeu, et on fait des jeux mathématiques, on crée des figures mathématiques, et ces figures mathématiques, il suffit de changer... il suffit de changer les coordonnées mathématiques et la figure change. C'est-à-dire on a ces jeux de perspectives dépravées dont on jouait à cette époque. Il y a un petit livre qui a été écrit par Baltrus Haitis sur les perspectives dépravées, c'est-à-dire ce jeu formidable de créer des perspectives qui à tout moment changent. C'est la même figure, mais à tout moment, elle change, elle se modèle, elle se retrouve autrement. Et c'est exactement ce que nous avons là, dans ce moment dernier, c'est la fin de la pièce. Après ça, on va se réjouir, et puis bon, tout va se remettre en place. Chacun aura sa chacune, et Viola pourra récupérer ses jupes, mais pas en scène. On les retrouvera, on ne sait pas comment, peut-être. Et c'est un moment absolument délicieux, parce que en même temps, notre intelligence... Et Shakespeare ne s'occupe pas que des sens, que de la sensualité, non, c'est un rapport intellectuel en même temps à son public qu'il a. Il faut que le public participe intellectuellement, qu'il sache jouer aux perspectives dépravées, aux jeux mathématiques des perspectives dépravées qui vont occuper tout le début du XVIIe siècle, toute la fin du XVIe et tout le début du XVIIe siècle. C'est donc une pièce tout à fait étonnante que cette pièce de La Nuit des Rois, qui est toute simple en apparence comme intrigue. Il n'y a rien d'extraordinairement compliqué. Mais Shakespeare nous le complique suffisamment pour qu'on ait comme ça la thématique du même et du même, la thématique de l'amour du même et du même, sans y toucher, sans enfreindre la morale, jamais, à aucun moment, évidemment sur scène, ça c'était quand même impossible, même du temps de Shakespeare. Ça aurait été... Et donc, on a une pièce merveilleusement, enfin, tellement moderne, qu'elle va pouvoir traverser les âges. Alors, malheureusement, on la joue toujours un peu trop comique. Alors, on n'a pas le temps de s'apercevoir qu'il y a derrière, justement, ces jeux maniéristes, ces jeux avec la sensibilité, ces jeux avec les attentes, voilà. Et donc, on a cet aspect maniériste dans La Nuit des Rois. Cette mathématique presque maniériste, ce jeu de perspective, de déplacement, c'est tout à fait étonnant de ce point de vue. Alors c'est un maniérisme légèrement différent. Je vous fatigue, vous voulez vous arrêter? Non, personne. Non, je demandais quand même à mes étudiants de temps en temps, mais ils disaient toujours non. Alors donc, je continuais. Et donc, dans le sens d'une nuit d'été, alors La Nuit des Rois, c'est la dernière comédie vraiment festive. D'ailleurs, Nuit des Rois, ça signifie 12e jour de Noël. Il n'y a aucun écho de Noël dans la pièce. C'est simplement qu'on devait la jouer dans ces grandes fêtes de Noël où il y avait des festivités avec les intellectuels de cette époque. Ça se jouait dans les fameuses... c'était des universités, enfin des collèges universitaires à Londres, et on y jouait à chaque Noël, enfin, etc., pas le jour de Noël, bien entendu, mais enfin, dans la période de Noël, on y jouait jusqu'au 12e soir de Noël, on y jouait un certain nombre de comédies qu'on avait écrites spécialement pour ces festivités. Et donc, Shakespeare avait écrit La Nuit des Rois. Alors, il n'y a rien, aucun roi, rien du tout dans la pièce, aucune allusion, mais le titre, c'est quand même La Nuit des Rois. Puis, si ça ne vous inspire pas, il y a un deuxième titre, And What You Will, et tout ce que vous voudrez. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voudrez. Voilà. Et ça, c'est le titre, c'est typiquement shakespearien. C'est la dernière comédie festive, joyeuse de Shakespeare. Après ça, ça va être absolument funèbre. Des choses comme Mesure pour mesure, c'est funèbre, c'est épouvantable, c'est moralisant, c'est funèbre, c'est vraiment assez difficile. Et après, il y aura les grandes comédies romantiques qui vont se terminer avec La Tempête. Donc, il y aura d'autres grandes comédies, mais qui feront appel à des ailleurs, à des lieux. On n'aura plus ce jeu de Shakespeare aussi adroit, aussi habile, avec son matériau de théâtre. Et alors là, on l'a vu en plein maniérisme, c'est-à-dire toujours renversé. On croit qu'on a compris, on croit qu'on a tout compris. D'ailleurs, je donne un dernier exemple sur La Nuit des Rois. Il vient d'écrire Hamlet quand il écrit ça. C'est pas rien, hein, de passer de Hamlet. Alors il écrit Hamlet en 1601 et il écrit La Nuit des Rois en 1603, très peu de temps après. Oh, c'est l'anti, on peut dire l'anti-Hamlet. Encore que, bon, enfin c'est l'anti-Hamlet quand même. On peut dire que oui, on peut dire. Voilà. Et je me préparais à vous dire quelque chose et naturellement ça m'échappe dans la seconde. Oui?
Ça va revenir.
Oui, ça va revenir, je sais bien, mais je ne voudrais pas vous faire attendre.
À propos d'Hamlet.
D'Hamlet. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a entendu 2 ans avant, to be or not to be, that is the question. Donc, ce petit mot le plus court de la langue anglaise, be, qui est quand même être, c'est un mot. C'est un mot qui institue la vie, la durée, enfin c'est extraordinaire dans ce petit mot ce que peut contenir, ce qui peut se contenir de pensée, y compris philosophie. Tous les philosophes ont mis la main sur to be or not to be. Voilà. Et la suite, that is the question. Bon. Eh bien, dans la pièce écrite peu de temps après, naturellement, il y a un bouffon. Le plus grand bouffon shakespearien, Festy, celui qui représente la fête assez déchaînée, et qui dit un certain nombre de choses, effectivement, des phrases. Il dit à quel point, par exemple, le langage est comme un gant de chevreau. Quand vous le retournez sur l'envers, il a encore du sens. Si c'est pas maniériste, ça. Voilà. C'est-à-dire, ce qui vous couvre la main, vous découvrez, et c'est encore un gant, et voilà. Donc, ça, c'est shakespearien. C'est tout à fait. Il le fait dire à son bouffon. Le bouffon, de même, quand il est avec sa maîtresse, Olivia. Olivia dit, emmenez le bouffon, elle en a marre de ce bouffon qui fait trop de bouffonnerie. Alors le bouffon se retourne et il dit, emmenez le bouffon, en montrant sa maîtresse. Voilà, alors ça c'est le jeu toujours des mots qu'on peut voir. Mais en même temps, ce bouffon dans la pièce, le bouffon c'est celui qui voit tout ce qui se passe, qui sait toujours l'arrière-cour et ce qu'il y a derrière les mots, il comprend tout avant tout le monde. Mais quand même, cette pièce est un peu spéciale. Et naturellement, un jour, il rencontre celui qu'il pense être dans la pièce, Césario. Et donc, il lui dit, bah, évidemment, je vous connais. Et Césario, qui n'est pas Césario, qui est son jumeau, Sébastien, il dit, mais moi, je ne vous connais pas. Et donc le bouffon lui dit, non, mais moi, on ne me la fait pas. Hein. On ne me raconte pas quand je connais quelqu'un que je ne le connais pas. Et en fait, il est en train de se planter, parce qu'il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu, le jumeau de Viola. Et donc, dans ce moment, même le bouffon est en train de mettre en cause ce fameux verbe être, parce que, justement, il dit, ce qui est, il est impossible que ça ne soit pas. Ne me faites pas croire que ce qui est n'est pas. C'est-à-dire qu'il répond à Hamlet comme ça 2 ans plus tard. Hamlet a dit « to be or not to be », etc. Grandiose. Mais lui, tout malin qu'il est, il dit voilà, il mélange ce que c'est que être ou n'être pas. Et en voulant dire quelque chose d'ironique, ne me faites pas croire que ce qui est n'est pas, il dit exactement la vérité. Ce qui est, c'est-à-dire Sébastien, eh bien, c'est pas Césario. Et il se fait piéger. Donc Shakespeare sait jouer même d'une pièce à l'autre, d'écho comme ça, de mots dont il a fait, dont il a déjà donné certains codes. Et on s'aperçoit effectivement que c'est une pièce tardive, tellement habile, tellement plurielle, tellement, et en même temps d'une netteté, c'est écrit comme un diamant. C'est un diamant obscur, bien sûr, c'est une nuit des rois. Pardon. On est toujours comme ça, dans une demi-obscurité, un soir, enfin, etc. Mais le songe d'une nuit d'été est maniériste autrement. C'est-à-dire, c'est une des premières grandes comédies, qui est à peu près de 1596, probablement, l'année de Roméo et Juliette. D'ailleurs, dans Le songe d'une nuit d'été, je vous ennuie pas, là, ça va. On se rend pas compte. Voilà. Et donc, dans Roméo et Juliette, on a une tragédie de l'amour merveilleux et émerveillé, et de la mort de l'amant, et une tragédie vraiment des parents qui contrarient l'amour, etc. Et donc Shakespeare vient de sa main dextre d'écrire sa belle tragédie Roméo et Juliette, dont tout le monde aura à se souvenir. Mais de sa petite main sinistre, sa main gauche, vous savez, comme le garagiste dans comment s'appelle ce merveilleux roman Le Roi des Aunes, le garagiste écrit des deux mains. Il écrit de la main sinistre son journal, et puis il écrit de la main dextre ce que personne n'a à savoir de son propre inconscient. Et Shakespeare un peu nous pilote comme ça. Il a toujours une main dextre qui affiche les choses, et puis une main sinistre comme ça qui nous dit les côtés obscurs, l'obscurité de l'être, etc. Et donc dans le songe, on a effectivement des moments obscurs. C'est le songe d'une nuit d'été. Alors on avait la nuit des rois, peut-être une réponse au songe d'une nuit d'été, mais là, dans le songe d'une nuit d'été, c'est véritablement une pièce nocturne. Et d'ailleurs, certains metteurs en scène s'y laissent prendre. Le dernier, c'est au Théâtre de la Ville, récemment, où toute la scène est noire, et on finit par ne pas tout à fait voir ce que font les amants. On les perd un peu dans la nuit noire, c'est un peu fâcheux. Puis surtout, j'étais assise, moi, très très loin, c'est grand théâtre, moi je n'aime que les tout petits théâtres, on est le nez sur l'événement théâtral. Si un théâtre, moi, a plus de 50 places, je n'y vais plus. J'aime les petits théâtres, parce que c'est immense, le Théâtre de la Ville. Quand on est en haut, on n'a plus cette intimité qu'il faut avoir avec le théâtre. C'est quand même, c'est un peu comme la musique, ces grandes musiques comme ça. C'est pas possible, c'est pas tenable. On doit être tout prêt. Et donc, dans le songe, effectivement, on a une nuit obscure. Et dans cette nuit obscure, on a quand même la patte maniériste, on a naturellement l'anti-pétrarchisme, le goût de se moquer de Pétrarque tant qu'on pourra se moquer de Pétrarque, et bien entendu, dans tout le songe est fondé sur l'amour au premier regard. C'est si vrai que Obéron invente, enfin trouve une petite fleur d'Occident dans laquelle Cupidon a tiré son arc. La petite fleur a donné un peu de sang, ou je crois, enfin quelque chose dans ce genre. Et donc Obéron, le roi des fées, s'est emparé de cette liqueur de la petite fleur d'Occident qu'il va mettre sur les yeux des amants, pour que ces yeux des amants, quand ils s'ouvrent, aiment au premier regard. Et comme il a une vieille jalousie, une vieille histoire de jalousie avec son homologue féerique Titania, qui n'est pas son épouse, mais qui est comme son épouse, il va se venger de Titania. Parce que Titania retient... Alors ça c'est un assez mystérieux moment, assez indéchiffrable de la pièce. Titania retient pour elle un petit enfant indien. Et Oberon veut qu'elle lui donne ce petit enfant indien. Lui, il veut en faire son giton pour tenir sa coupe. Enfin, il se prend pour Zeus en devant Ganymède. Bref, c'est à peu près ça. On a toujours une histoire d'Ovide, une légende d'Ovide dans les oreilles quand on lit les comédies de Shakespeare. Et presque tous les maniéristes et les baroques sont du côté d'Ovide. Ils sont évidemment... oui, c'est leur monde. Un monde sans stabilité, tout bouge, tout s'effondre au moment où on pense qu'on va mettre, que ça y est, on va avoir trouvé une solution, tout disparaît, tout s'effondre, tout s'évapore. Et donc, on a cette longue querelle entre Oberon et Titania à propos de ce jeune enfant indien. On a d'ailleurs une scène merveilleuse dans laquelle on voit naître le petit enfant indien. Et on voit deux femmes, dont Titania, deux femmes dont on ne nous dit pas qu'elles s'aiment charnellement, mais elles sont toujours ensemble. Elles protègent toutes les deux ce petit enfant indien et toutes les deux, sur le rivage, sur un rivage merveilleux, féerique, ont aidé à la naissance du petit enfant indien. Et donc, on a là un couple lesbien. Shakespeare ne nous le dit pas, il ne nous dit pas ça crûment, etc. Mais il nous montre ces deux femmes et le ventre se gonflait comme le vent dans les voiles. C'est-à-dire, c'est impalpable, il y a presque rien, mais il y aura quand même un enfant. Alors, ça c'est maniériste, c'est typiquement maniériste, détourner le ventre rond des vagues pour en faire le ventre rond qu'on ne va pas montrer, on ne va pas s'étendre sur un ventre de femme. Mais quand même, le ventre rond des voiles, c'est sublime comme image. Donc voilà, Shakespeare, là, c'est vraiment le Shakespeare maniériste qui dit les choses par un biais, par une image, par une façon non organique, on va dire, de dire les choses. C'est peu organique, la poétique de Shakespeare, rarement. Mais dans Le Songe, on a quand même le maniériste qui réécrit ce qui pourrait paraître une farce. Par exemple, le petit lutin à qui on a dit « tu iras mettre la fameuse liqueur de la fleur d'Occident dans les yeux d'un tel, un tel, un tel », alors Oberon, qui veut se venger de Titania, dit naturellement au petit lutin « tu mettras dans les yeux de Titania et tu mettras dans les yeux de Bottom ». Alors rien que le nom, Bottom, ça veut dire gros cul, à peu près. On dit que, quand on est distingué, on dit que ça veut dire bobine. Mais c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, bobine ou gros cul, c'est à peu près ça. Et le gros Bottom a du répondant. Il jouait une pièce de théâtre, et en jouant sa pièce de théâtre, il s'est collé une tête d'âne sur la tête. Et une fois la tête d'âne collée sur la tête, il ne peut pas la décoller. Donc quand il se retrouve errant au milieu des fées et que Titania ouvre les yeux après le sommeil et la petite fleur d'Occident dans les yeux, eh bien elle tombe amoureuse de l'âne. C'était le projet d'Oberon. En fait, il n'était pas aussi malin, Oberon, mais son petit lutin fait en sorte que ça se passe comme ça. Et donc Titania se met à aimer un âne. Alors Shakespeare en profite pour se moquer des maniéristes. Les maniéristes qui aiment les fleurs merveilleusement légères, les charmilles ombreuses. On voit ça dans tous les dessins maniéristes, dans les fameuses grottes, enfin les grotesques des villas palladiennes. On voit partout, comme un petit peu refait, corrigé, 19e siècle ici, ces enlacements de lierre, etc. Alors Shakespeare en profite. Il fait un petit univers à la grotesque avec la charmille de Titania, et dans cette charmille, on a Titania amoureuse, rêvant de donner les mets les plus raffinés à son amour d'âne, etc. Mais l'âne, quand elle lui dit « Que voulez-vous ? Je vais vous faire des repas féeriques, etc. » Il lui dit « Moi, j'aimerais un peu de picotin. » Voilà. Donc, on a Shakespeare derrière. Hein. On s'emballe pas trop. On ne s'envole pas quand même vers des romantismes extraordinaires. Voilà, ça, c'est shakespearien. Il sait à la fois faire d'un côté l'évanescent, le séduisant, le grotesque à la grotesque, justement, à l'italienne. Il en a sûrement entendu parler. Il y a déjà en Angleterre des décors à la grotesque, et donc il sait très bien ce que c'est que ce moment maniériste par excellence qu'est l'époque des grotesques. Et dans son petit songe, il en fait ce moment délicieux de la rencontre de Titania et de Bottom, très grotesque, en grotesque au sens moderne du terme, et en même temps il en fait une petite scène à la grotesque, c'est-à-dire à l'italienne, à la romaine, etc. Où, c'est absolument délicieux. C'est un moment, alors là tout d'un coup il y a des lierres, des liserons, des pampres, les décors à la grotesque, des pampres, et puis rien ne repose sur rien. Tout est suspendu, on ne sait pas comment, comme dans les grotesques. Il n'y a pas de... rien n'est posé. Tout est quelque part, aérien. Et donc, c'est là qu'on voit la main de Shakespeare, véritablement, la manière de Shakespeare. Il ne fait pas seulement une scène comique. Il fait une scène comique, onirique, esthétique, maniériste. On a tous les bonheurs, à la fois. C'est tout à fait étonnant, cette façon inclusive qu'il a, effectivement, et le songe d'une nuit d'été, de A à Z, est inclusive comme système. On a, bien entendu, ça commence comme une tragédie, il y a 6 départs d'intrigue, ou 5, au moins 5, et ça commence comme une tragédie, les jeunes amants, ils sont obligés de s'enfuir parce que le papa impérieux veut que Hermia épouse Démétrius qu'elle n'aime pas, etc. Et donc il s'enfuit dans la forêt. Alors au moment bénéfique dans cette forêt, tout le monde se rencontre dans la forêt, y compris bien sûr les artisans qui se sont mis en tête de faire du théâtre. Les pauvres, ils ne peuvent pas. Mais Shakespeare s'en sert de ces artisans pour déchiffrer ce que c'est que le théâtre quand même.
Alors le théâtre dans le théâtre, c'est baroque ou c'est du maniérisme?
Comment?
C'est du baroque ou du maniérisme?
Bah les deux. Ah oui, sauf que chez les baroques, ça sera gros. Voilà. Chez les maniéristes, on n'a pas l'air d'y toucher. On n'a pas l'air de le faire exprès. Je pense que s'il y a une différence entre... Moi, j'ai fait toutes mes premières analyses de Shakespeare baroque. Puis il y avait quelque chose qui... Enfin, j'étais très contente de me dire, en tout cas, il n'est pas classique. J'ai un élément d'analyse qui me permet de montrer qu'il est non seulement pas classique, mais presque anti-classique. C'est la grande guerre, effectivement, entre Horace et Ovide. Shakespeare est entièrement ovidien. Il est toujours dans la métamorphose. Ça bouge tout le temps. On se dit, ah bon, là, on a 5 minutes pour se reposer. Un peu ça. Ah non, pas du tout. Il y a un tabouret qui s'en va. Il y a quelque chose qui arrive dans la scène. Jamais on a de repos véritable. Tandis que quand même, dans la comédie horacienne, on a tout le temps de digérer la morale, digérer ce qui est en train de se faire. On a tout le temps de se dire, non, non, il ne faut pas de mi-chair, mi-poisson. Il faut que tout soit poisson ou tout chair, en général tout chair, pas poisson. Et tandis que dans Shakespeare, il y a des naïades, il y a des, comment s'appelle cette créature qui a un buste de femme et une queue de poisson, et les sirènes. Donc il y a des sirènes, et donc oui, il est entièrement ovidien. Il est du côté d'Ovide où on est tout le temps en train de voir une métamorphose de quelque chose en une métamorphose d'autre chose. Et quand il y a la querelle entre Titania et Oberon, il s'envoie des vacheries formidables à coups de métamorphose d'Ovide. Je t'ai vu dans telle métamorphose, alors Shakespeare emprunte la métamorphose 14 ou 12 ou 11, peu importe, et je t'ai vu, dit Oberon, quand tu étais dans les bras de, etc., etc. Et naturellement, Titania, de la même façon, lui dit, tu as coursé toutes les jeunes femmes, et alors elles viennent toutes de vide. Alors, on est là, et ça c'est assez typique, de, je pense, de l'esthétique maniériste, les emprunts sont à Ovide. Parce qu'Ovide, c'est la mobilité, la métamorphose. Justement, il n'y a rien de fixe dans Ovide, jamais. Quand on a un amour, ça se défait, quand on a l'or devient laurier, etc., etc. On n'a jamais rien de fixe, on n'a même pas la mort fixe. On a une métamorphose dernière, voilà, alors tout le songe est écrit avec, au fond, cette esthétique en arrière-plan de la métamorphose. Quand il y a justement ces engueulades formidables entre le roi des fées et la reine des fées, c'est sous la forme d'emprunt à Ovide. Alors tout bouge, tout bouge. Oui ?
J'ai une question dans la suite de Bernard. Au songe, la notion de songe, elle est baroque ou maniériste ?
Oh bah, les deux, bien sûr. Bah, quand elle devient une affirmation du mode d'être, c'est-à-dire dans Descartes, ou dans La vie est un songe, Calderon, là on est dans le baroque. Parce qu'ils savent, ils ne vous disent pas. La vie, est-ce que c'est un songe? Est-ce que non, ils n'hésitent pas. Ils savent, la vie est un songe. Voilà. Et Descartes, c'est en quelque sorte, je songe, donc je suis. C'est quand même énorme. Il faut être un baroque qui est déjà déclinant vers le classicisme pour oser une affirmation de ce calibre. C'est là qu'on voit comme c'est intéressant l'esthétique. Enfin, moi, ça m'a toujours passionné, parce que je pense qu'avec l'esthétique, on capte les moments de sensibilité et on voit la forme qui lui est donnée. Ça explique merveilleusement les grands mouvements esthétiques qui perdurent depuis probablement la naissance de l'humanité.
Et est-ce que... Je ne sais pas, je pose une question comme ça un peu en l'air. Est-ce qu'on voit ce maniérisme dans la langue ?
Ah, bien sûr. Alors, tous les jeux, à commencer par le jeu avec to be. J'écris Hamlet, to be or not to be, gravité, bon, tous les philosophes du monde entier, on le sait, jusqu'au 30e siècle après Jésus-Christ, vont écrire sur to be or not to be. Il en a un peu d'intuition, c'est le pire, c'est pas vrai, mais bon, en tout cas, il fait semblant. Voilà, et puis la pièce deux ans après, vous êtes sûr que quand être et ne pas être, c'est pas la même chose? On peut être et ne pas être à la fois, ce qui est le cas des jumeaux. Ils sont à la fois l'un et l'autre sans être ni l'un ni l'autre. Et on a par exemple un moment où la petite Viola se voit dans son miroir, elle s'est déguisée en garçon. Et déguisée en garçon, elle ne se voit plus elle-même dans son miroir, elle voit son frère. Alors il y a une sorte de permanence impalpable de la figure du frère dans le miroir. Ça, c'est pleinement maniériste et baroque. Dès qu'on a un miroir, c'est maniériste et baroque. C'est-à-dire, on a le même, la similitude, et c'est une similitude dont on n'est pas sûr. On ne peut jamais être certain d'un miroir. Alors c'est toutes les grandes vanités baroques, bien sûr. Toutes les grandes vanités baroques, c'est une femme qui se regarde au miroir. Et que voit-elle? J'avais écrit un article là-dessus, j'étais très contente du dessin que j'avais fait dériver. Parce qu'effectivement, on voit une symétrie parfaite entre, dans le miroir, le profil de la tête de mort qui se reflète, qui était sur la table, et le profil de la jeune femme qui se regarde au miroir. C'est prodigieux. Et en fait, le crâne est sur la table. Mais il y a un jeu de calcul esthétique qui fait que dans le miroir, on voit le crâne. Alors que celui qui regarde la vanité baroque, il voit le crâne et la jeune femme face à face. C'est prodigieux. Alors, qui est l'auteur du tableau? Je le retrouve. Pardon? Je ne sais pas.
Holbein.
Non.
Oui, dans Noël.
Il y a peut-être au retour aussi, à cette époque-là, les visages que l'on retourne. D'un côté, c'est la mort, et de l'autre côté, c'est la joie.
Oui, bien sûr. Il y a tous ces effets où le même et son contraire peuvent s'inverser à tout moment. Ça, c'est maniériste et baroque. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas fait la différence entre maniériste et baroque. Mais je crois que le baroque, c'est un maniérisme qui a pu s'affirmer. Et du coup, il s'affirme, il fait des grandes volutes, il fait des grands nuages, il fait des grandes architectures, alors que le maniériste, il ne touche à rien. Il prend une façade et à peine il va faire trembler, il va mettre un plan d'eau devant la façade. Et le reflet dans l'eau, mine de rien, c'est l'architecture qui tremble. Alors, il ne va pas encore toucher à l'architecture. Ça, c'est l'astuce maniériste. C'est quelque chose de prodigieux. Je crois que la génération maniériste a été hyper douée, intellectuellement hyper douée, avec un sentiment que tout bougeait. Alors, bien sûr, toute cette génération sait parfaitement que la clé de voûte, c'est Copernic. Ils savent très bien qu'en 1530, Copernic a dit la chose la plus définitive. Ça n'est pas la Terre qui est au centre du monde, c'est le Soleil. Et la Terre tourne. Et du coup, comme ils sont poursuivis par les églises, tant protestantes que catholiques, et probablement d'autres, mais je ne les connais pas, ils se méfient. Et donc, chacun y va avec une habileté formidable pour dire « Et pourtant, les choses bougent. Et pourtant, ça n'est pas comme avant. Et pourtant, ça n'est pas tout à fait ça. » Et au même... Oui, pardon ?
Il y a aussi des meubles à cette époque, des cabinets, vous savez, où on ouvre les portes et où tout se reflète.
Oui, c'est ça. Oui, c'est l'époque des reflets. C'est, on joue des reflets. D'ailleurs, il y a des reflets sur l'eau, il y a des reflets dans les miroirs, il y a des... Oui, c'est la grande époque des cabinets en miroir, bien sûr, tous les cabinets en miroir, et les cabinets de curiosité en même temps. C'est-à-dire, on a la curiosité de ce monde qui, tout d'un coup, n'est plus classique. Il y a même des sirènes. On trouve des sirènes dans la nature. Donc, Horace, terminé. Balayé, il reviendra avec les classiques. Hein. Les classiques français vont du côté d'Horace et Ovid, c'est terminé. Mais bon, quand même, c'est assez... Voilà, alors il y a cette... J'avais apporté, mais je ne peux pas vous le passer parce que je n'ai pas prévu et on n'a pas pu prévoir une projection d'un certain nombre de tableaux maniéristes, mais il y a un tableau de Pontormo. Pontormo peint une sorte de miroir convexe. Et dans le miroir convexe, on le voit avec une main énorme au premier plan pour un maniériste. C'est quand même merveilleux. La main tient tout le tableau, puis il y a sa tête au-dessus. Voilà. C'est un tableau, je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de demi-sphère. Enfin, pas tout à fait sphérique, mais enfin presque. Et donc, Pontormo, c'est quand même génial qu'ils aient ce sens qu'ils sont en train de faire quelque chose et que leurs mains dominent. Comme Alberti, par exemple, quand il invente la perspective, il sait qu'il est en train d'inventer un modèle du monde qui va remodeler la perception du monde. Et c'est vrai. Tout d'un coup, on fait des peintures dans lesquelles on a l'impression qu'il y a l'infini et le proche. C'est-à-dire que le proche, le lointain, tout ça, ça commence et ça coexiste sur une toile plate. Complètement. Alors, ils ont tous ce jeu intellectuel. Ils ont certainement un intellect formidablement développé. Et ils ont cette jouissance de savoir que le poids religieux de la terre fixe et le soleil qui tourne comme il peut autour, ça c'est fini, c'est balayé. La terre tourne, elle se meut, elle bouge, elle change, elle se modifie. Donc là, il y a aussi la preuve. Tous ceux qui vont écrire, par exemple, quand on prend les dialogues de Galilée, c'est tout sur le mode ironique, comme ceux de Giordano Bruno. Giordano Bruno, c'est l'ironie de 1 à Z. Il n'écrit jamais autrement que sous la forme ironique, on dirait du Shakespeare. Rien n'est proche philosophiquement de Shakespeare comme Giordano Bruno. C'est tout à fait étonnant. C'est vraiment extraordinaire. Tandis que quand on arrive à Newton, 777, il n'y a plus un un effet comique, plus une allusion à et si c'était autrement, et si c'était différent, etc. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un profil mathématique. Les mathématiques répondent à tout. Et en fait, c'est les esprits qui ont muté. Ces esprits pré-coperniciens ont subi la révolution copernicienne, ils ont senti changer le monde, ils l'ont exprimé comme ça, avec ce maniérisme, ce baroque, où tout bouge. Tout change, tout bouge, ça vous passe sous les pieds. On peut plus savoir exactement dans quel, où est le haut, le bas, c'est formidable. Et puis ce peintre qui vous colle une main énorme en avant de lui-même, comme si Pontormo, le premier des maniéristes, avait compris que sa main, que le maniérisme était une main, une manière, et pas une matière, parce qu'il ne change jamais de matière. Il vous parle des mêmes amours, des mêmes... rien n'a changé, même pas les métamorphoses d'Ovide. Mais il y a la main qui change, la main qui transforme, la main qui réécrit. Le maniérisme, c'est... Alors, les baroques, après, sont plus affirmatifs. Ils ont gagné la partie. Ils sont affirmatifs. Et puis, il y a l'aspect sombre des baroques. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas des grands mélancoliques à l'époque maniériste. Parce que c'est quand même... Toutes ces transformations, c'est nocturne. C'est pas étonnant qu'on ait la nuit des rois, le son d'une nuit d'été. C'est-à-dire, c'est le nocturne. Ça se passe dans des obscurités. La raison est mise en accusation, en quelque sorte.
C'est aussi la nuit la plus brève.
Comment ?
C'est aussi la nuit la plus brève.
Oui, en un sens, oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de basculement de...
Oui, mais enfin, oui, bien sûr. Mais je pense que le nocturne, tout d'un coup, on n'écrit pas de nocturne en musique. On va les écrire au début du 19e, mais on aurait pu. On aurait pu, effectivement, on célèbre la nuit, on célèbre tout d'un coup beaucoup la nuit. Et on aime les femmes brunes, la fameuse femme brune des sonnets. C'est-à-dire, ça, c'est une hérésie. Elle devrait être blonde avec des yeux pères et naturellement, selon le physique pétrarchiste idéalisant l'or. Et Shakespeare s'arrange pour faire aimer une fille en scène qui a des yeux charbonneux, la lèvre rouge, et qui est brune de peau et de tempérament. Voilà, c'est façon de répondre et de dire « nous aussi on a compris Copernic ». On a compris que nos sensibilités ne répondaient plus à une sensibilité réglée sur... une règle du monde qu'on croyait immuable, parce qu'on l'a cru immuable quand même pendant au moins 14 siècles. C'est beaucoup.
Et trouve-t-on des maniéristes au XXe siècle ou au XXIe?
Bien, on l'est un peu. Moi, si j'avais le temps, mais je ne l'aurais pas, parce qu'à 88 ans, j'ai encore des piles de choses comme ça à faire, donc je n'aurais pas le temps d'aborder cet aspect. Mais je crois qu'il y a un certain maniérisme dans notre siècle. Pardon ?
Justement, par rapport à cela, madame, est-ce que vous parleriez de l'écriture de Barbey d'Aubervilliers, par exemple ?
C'est possible.
Du baroque ou du maniérisme ?
Mais les romantiques ont pris d'autres solutions. Ils se sont échappés vers les ailleurs. Ce qui est maniériste, c'est de faire avec ce qu'on a. Nous n'avons plus d'ailleurs. Il n'y en a plus. C'est fini. On ne peut plus rêver qu'on va dans la Lune maintenant. Il y a encore les empires de la Lune hein, pour les gens du 17e. Nous, empire de la Lune, c'est terminé. On sait bien. On sait bien que l'humanité n'a plus d'avenir. On sait à quel point on est borné intellectuellement, borné dans l'espace, borné. Je crois qu'on a fait cette sorte on a fait notre deuil, en quelque sorte, de cet homme fabuleux que pouvaient rêver les romantiques ou certains classiques d'ailleurs même, enfin surtout les romantiques, ont rêvé des créatures qui échappaient aux dimensions restrictives de l'humain. Et nous, nous avons fait notre culture avec ce qui est le plus restrictif. On s'y fait, on l'accepte.
Noël.
Il existe un essai méconnu, petit ouvrage d'Emmanuel Berne,
oui,
qui s'intitule Les deux sources de l'art occidental.
Oui.
Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est peu connu. Or, c'est un ouvrage extrêmement lumineux.
Oui, lumineux, oui, ça c'est sûr.
Il y a l'intuition que l'art occidental est en alternance permanente entre l'esprit classique et l'esprit baroque.
Oui.
Et il trouve dans l'art grec, dans l'art romain, dans l'art roman, dans l'art gothique, et a fortiori dans les temps modernes, avec l'arrivée de la Renaissance jusqu'au romantisme, que dans le fond, par exemple, l'art roman est un art classique, l'art gothique est un art baroque,
oui.
etc., etc. Et il montre aussi qu'il y a les deux sources en peinture moderne, l'une classique avec Poussin, l'autre baroque avec Caravage. Enfin, oui. Il explique tout ça.
Oui, c'est un petit Caravage que je citais tout à l'heure, l'enfant, l'enfant voilà, qui est en fait, qui a l'air d'une petite fille et qui est un garçon, oui. D'accord. C'est ça, c'est Caravage, oui.
Emmanuel Berne, voilà un ouvrage peu connu.
Oui, oui, mais je pense ça, je pense qu'il y a eu toute une période, moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'étais adolescente ou jeune intello, mais je pense que l'époque baroque et l'époque maniériste changent tous les discours antécédents. Tous les discours antécédents, tout est caduque. La science est caduque. Les sciences du monde sont caduques. Et même les sciences du langage. Moi, j'ai écrit un petit article, justement, parce que j'ai été alertée par la proximité d'écriture qu'il y a entre un philosophe comme Giordano Bruno et Shakespeare. Ils écrivent de la même façon. Ils suspendent le sens à un point qui rêve de s'inverser dans son contraire. Ça, c'est assez... C'est vertigineux. C'est vertigineux. Pour Giordano Bruno, il n'y a pas de vérité stable, établie. Il y a un point parfait, mais on sait que en dessous du point parfait, il faut tout recommencer. Ça recommence à muter, ça recommence à changer. Il n'y aura pas de point stable. Et ça, je crois que les maniéristes et les baroques le savent, qu'ils n'ont rien de stable sous les pieds. Et sur le plan politique, encore moins, parce que c'est des grands siècles, on parle de révolution, mais bon, on vit pépère, si on peut dire, à côté de ce que vivaient ces siècles-là.
Oui.
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Écoutez, nous avons écouté avec plaisir, avec intérêt.
Merci beaucoup.
c'était magnifique. Et ben, voilà, donc on est obligé de terminer à 18h, donc il va bientôt être 18h. Si vous avez quelque chose à rajouter.
Oui, j'ai oublié de vous demander des questions. Je fais comme avec mes étudiants, je réservais un temps des questions, mais je ne sais pas, on était toujours au-delà du temps des questions quand la cloche sonnait.
Ben, c'est comme ça. Voilà.
Pour Hamlet, on disait que j'ai lu que l'inspiration, ce serait Christian Kaff de Danemark, son château des aînés, aurait inspiré Shakespeare. Et là, par rapport à cette vie des rois, vous pensez qu'il y a une inspiration?
Oui, enfin, d'abord, il faut tenir compte du fait que, y compris moi, tout le monde a écrit sur Shakespeare sans toujours avoir les pieds assez solides et la tête assez bien faite. Moi, j'ai pris la piste maniériste parce que ça me permet, effectivement, comme je ne sais rien, que je n'ai aucune certitude, ça va très bien avec ma nature. Moi, j'ai pas envie d'avoir des certitudes. Et bon, il y a des gens qui aiment quand même savoir d'où ça vient. Alors, effectivement, on a comme ça des prospections et qui sont valables. Je veux dire, mais Shakespeare n'a jamais voyagé, il n'a jamais quitté l'Angleterre. Il y a des gens qui vous l'envoient comme ça à Venise, etc. Il n'a jamais quitté l'Angleterre. Tout ce qu'il sait, c'est parce qu'il a lu, il y a deux merveilleux livres sur un marchand vénitien juif, comme par hasard, qui effectivement gère l'argent pour sauver ou pour compromettre un richissime chrétien. Et ce chrétien se laisse prendre au piège. Mais il a jamais mis les pieds à Venise. Alors il fait, il a lu chez tel poète, etc., qu'il y avait tel pont ou telle vue, mais c'est assez peu concret, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Shakespeare, c'est impossible à dessiner.
Donc ni à Venise, ni à Vérone.
Oh, bah à Vérone, en commun, oui. Voilà. Mais on a créé des mythologies. Après, les gens de Vérone ont eu envie que Shakespeare soit allé à Vérone et créer les amants de Vérone. Et le balcon, bien entendu, il y a un vrai balcon à Vérone, bien entendu. Ça va de soi, un peu. Mais ça n'exclut pas qu'effectivement, Shakespeare ait vu une gravure. Son esprit s'alimente de tout. Quand on a vécu avec des gens créateurs, on sait très très bien qu'ils trouvent leur création dans des conditions inouïes, quelquefois dans un verre d'eau, enfin, c'est extraordinaire.
C'est un peu semblable. Edgar Poe,
oui, voilà.
Par exemple, dans le portrait ovale, il imagine une Italie dans laquelle il n'est jamais allé.
Jamais allé.
Il est totalement fantasmé.
Oui. Bah, bien sûr, puis ils sont cultivés, ces gens-là. Moi, je pense que Shakespeare écrivait avec une Bible sous le coude. Un récit italien traduit en français parce qu'il savait mieux le français que l'italien sous l'autre morceau du coude, qu'il avait un dictionnaire de poésie probable, parce qu'il y a un dictionnaire poétique qui a été trouvé par des Américains. Ils l'ont appelé The Beehive, pas les Américains, mais le dictionnaire s'appelle The Beehive, c'est-à-dire la ruche. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que chaque mot est donné avec un triplet, c'est-à-dire trois mots possibles. Et les contraires, trois mots possibles. C'est-à-dire que Shakespeare, bah, il a ça sous le coude. Il écrit, bon, salut, il est comme moi, le mot lui vient plus. Bon, je peux prendre Shakespeare, c'est horrible. Bon, et voilà, il a son dictionnaire sous la main. C'est sûr qu'il a utilisé
un dictionnaire. C'est ça qu'on appelle un dictionnaire de poésie. C'est
donc bien sûr, qui s'appelle The Beehive.
The Beehive.
Oui, qui est un dictionnaire de comment on s'appelle les mots qui se ressemblent.
De synonymes.
Un vrai dictionnaire poétique de synonymes. C'est-à-dire, si vous êtes planté, si vous êtes blanc devant votre tête, il y a un synonyme qui va vous être suggéré.
C'est fantastique.
Et moi, je crois beaucoup que ces Américains ont eu une excellente intuition en pensant que c'était le dictionnaire Shakespeare. Peut-être pas le volume qu'ils ont acheté, encore que toute l'écriture soit une écriture 16e, fin 16e, 17e dedans, dans le livre. On connaît les écritures maintenant, c'est déchiffré. Donc c'est un dictionnaire qui a été annoté par un poète du 16e, 17e. Et d'ailleurs, je ne sais plus alors quel poète contemporain de Shakespeare dit à des jeunes poètes, oubliez votre dictionnaire. Donc il travaillait avec des dictionnaires.
Bah oui, bien sûr.
Nos poètes inspirés. Enfin, les romantiques aussi, hein.
Oui.
Et alors, il a vraiment existé?
Shakespeare?
Oui.
Oh oui. Il est archi concret. Voilà. En tout cas, celui qui a pris le nom de Shakespeare, auquel on a de... Mais on a des traces, hein. On a des traces parfaites de la vie de Shakespeare. On ne sait pas très bien d'où est venue cette... je pense que au XIXe siècle, il est impensable que quelqu'un qui n'est pas passé par l'université puisse avoir un talent. Donc, il faut absolument qu'il soit le duc, Dieu sait, avec des ancêtres remontant quasi à Apollon, enfin, etc., et qu'il soit inspiré directement par les dieux. Sinon, ça ne va pas. Mais c'est une idée du 19e. Hein. C'est dans la fin, l'extrême fin, je crois que c'est vers 1850, que tout d'un coup, on construit cette idée que Shakespeare ne serait pas Shakespeare. Alors, et qu'alors le duc, je ne sais plus comment...
Vous venez de dire, ben non, il a vraiment existé, il est très concret. Or, tout à l'heure, vous avez dit, mais non, il ne touche à rien, il est très éclairé.
Ah, mais ne rien savoir.
Il n'a pas connu l'Italie.
Ah ça, on sait qu'il n'est jamais, jamais sorti d'Angleterre.
C'est pas très concret, là.
Sa biographie est impeccable. On sait qu'il n'est jamais sorti d'Angleterre, on sait qu'il a trois enfants, on sait que parmi ses enfants, il y avait deux jumeaux, un garçon et une fille, que le petit garçon est mort. On sait, par exemple, que sa fille... Susanna, quand elle a à peu près 24 ans, elle doit flirter dans les milieux catholiques parce qu'elle a une amende colossale. Sans doute, elle doit sonner chez son père pour la payer parce que lui, il est richissime. Hein. Il fait très bien, il gagne très bien sa vie dans son théâtre. Et donc, Susanna est restée fidèle au catholicisme ancestral du papa de Shakespeare, dont on a trouvé des documents, effectivement, dans la maison de Stratford. On a énormément de documents. On ne comprend pas, c'est incompréhensible qu'on ait besoin en plus d'en rajouter. C'est formidable, tout ce qu'on a sur Shakespeare, y compris cette œuvre.
C'est le propre du maniérisme, on ne sait plus finalement.
Je ne crois pas. Je crois que c'est le propre de la bêtise du XXe siècle, du XIXe, voilà, c'est le XIXe siècle, ça. Au XIXe, ce sont des grands hommes, mais quelquefois ils sont bêtes. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un petit quelque chose d'invention qui ne ment pas.
D'accord.
Cette invention multiple et impalpable, c'est anti-19e, même les romantiques. Hein. Même les romantiques, ils ont aimé Shakespeare, on en est reconnaissant, mais bon.
Si vous voulez, on va terminer sur ce mot et on est un peu rassurés.
Merci.
Merci beaucoup.